Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à ce 88e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le mois de septembre touche à sa fin et avec lui la 40e édition de Piano Jacobin, dont le concert de clôture va être donné le 30 par Boris Berezovsky. Mais vous allez voir qu'octobre s'annonce lui aussi très dense en événements musicaux, et ce dans des genres très différents. Pour évoquer l'actualité musicale passée, présente et à venir, j'ai la grande chance de pouvoir compter aujourd'hui sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. J'ai aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission un invité d'honneur, le pianiste et compositeur Vincent Joquin, un musicien toulousain qui est également fondateur et directeur artistique de Rendez-vous Musical. La troisième édition de ce concert annuel a lieu mardi prochain, 1er octobre, à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Rendez-vous Musical présente de nombreuses particularités dont nous allons parler tout à l'heure avec Vincent Joquin lors de la seconde partie de ce numéro. La première va être consacrée, comme d'habitude, à l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Je le rappelais il y a quelques instants, le mois de septembre est indéfectiblement lié pour les mélomanes au festival Piano Jacobin qui se termine donc le lundi 30 avec le récital de Boris Berezovsky à la Halle aux Grains. Il y a encore quelques concerts prévus d'ici là et il y en a eu beaucoup depuis le numéro précédent de Mélomanie, un numéro dont était absent Serge Chauzy, ce qui arrive rarement. Vous étiez souffrant Serge, mais tout est rentré dans l'ordre fort heureusement, ce qui nous permet de vous retrouver au micro de Radio Présence aujourd'hui. Il y a trois concerts auxquels vous avez assisté et sur lesquels vous vouliez revenir. Tout d'abord, celui donné par Nicolas Angelich, mardi 17, au Cloître des Jacobins, un pianiste qu'on connaît bien et qu'on apprécie pour l'avoir souvent entendu à Toulouse. Quel programme a-t-il joué et dans quelle forme était-il la semaine dernière aux Jacobins ?
Eh bien, le plus français des pianistes américains était en grande forme. Et c'est un pianiste particulier, hein, qui a un son particulier, une intensité très particulière de son jeu. Et une fois encore, alors c'est un peu le thème de tout ce 40e festival, chaque programme est construit de manière très réfléchie. Et là aussi, c'était très construit. Alors, c'est un programme qui associait pourtant deux compositeurs qu'on n'associerait pas a priori, Sergei Prokofiev et Johannes Brahms. Bon, a priori, il n'y a pas de lien direct entre ces deux compositeurs, mais il se trouve que toutes les œuvres qui étaient au programme étaient construites à la manière d'un puzzle. C'était des œuvres avec de multiples cellules qui les composaient. Alors, ça a commencé avec les Visions fugitives de Prokofiev, un ensemble d'œuvres qui est très rarement donné intégralement. Très souvent, les pianistes butinent parmi les Visions fugitives, il y en a quand même 22. Ils en font un bis, par exemple. Mais là, non, il a voulu tout jouer. C'est 20 pièces, en fait, hein, 20 pièces brèves. Donc, comme un puzzle, là aussi. Alors, l'inspiration de ce titre, elle provient d'un poète russe symboliste qui s'appelait Constantin Balmont, qui avait un nom français, où il a écrit « Dans chaque vision fugitive, je vois des mondes pleins de jeux changeants et irisés ». C'est une belle phrase et qui, je crois, a vraiment inspiré Prokofiev. Et là, vraiment, Nicolas Angelich était tout à fait à l'aise. Il a développé une gamme infinie de nuances, une large palette de couleurs. Enfin, c'était vraiment un grand plaisir que d'écouter ces pièces dans la continuité. Et puis, il a enchaîné avec, également de Prokofiev, 10 pièces pour piano qui sont extraites du ballet Roméo et Juliette. Alors, ces 10 pièces, ça n'est pas comme les suites pour orchestre qu'il a écrites. Il s'agit vraiment là d'une œuvre pour piano. Il a vraiment adapté ça au piano, mais ce n'est pas un succès d'année de l'orchestre. Le piano ne cherche pas à imiter l'orchestre.
Non, c'est une pièce pour piano à part entière.
Vraiment une pièce à part entière, avec 10 pièces. Bon, là aussi, Angelich s'épanouit dans ces pièces très contrastées. En particulier, moi j'ai trouvé absolument bouleversante la scène finale, Roméo et Juliette avant la séparation. Ça, c'était vraiment une merveille. Et puis, la seconde partie était consacrée donc aux variations et fugues sur un thème de Handel, de Johannes Brahms. Alors là, contraste énorme, hein, après le style de Prokofiev. Là, alors c'est du Brahms, mais qui rend hommage au classicisme. Et donc, c'est tout à fait Une musique d'une clarté lumineuse et une musique extrêmement polyphonique, très très belle. Alors là, on admirait l'équilibre quasi parfait des deux mains du pianiste, hein, qui a vraiment fait des choses magnifiques. Alors là, il y a 25 variations, vous voyez, encore un puzzle, et qui se succèdent. Et donc, on explore là tout l'éventail des expressions possibles. Alors, ce que j'ai le plus admiré là-dedans, c'est la fugue finale, qui résonne comme un véritable monument. C'est une architecture très Brahms, hein, évidemment. Et donc, là, Nicolas Angelisch a joué un peu un rôle de maître architecte, donc c'était très très beau. Il a eu un tel succès qu'il a fallu pas moins de 3 bis pour que le public accepte de le laisser partir. Et là, ça a changé complètement, puisqu'il a d'abord joué 2 pièces de Chopin, un mazurka et la fameuse valse dite du petit chien de Chopin. C'est un titre un peu idiot, mais bon,
c'est ouais, la valse en ré bémol majeur. Il a ses raisons.
Oui, mais titre. Bon, tout ça rabaisse l'heure, mais enfin bon. Et puis, il a joué, j'imagine, pour apaiser un peu l'enthousiasme, la première des scènes d'enfant de Schumann, Douceur et grâce, qui referme un voyage où il était un pays conquis, évidemment.
Oui, alors justement, comme nous avons un pianiste invité à cette émission, parce que Vincent Joquin, à la base, vous êtes pianiste, je sais que vous allez souvent au concert. Nicolas Angelisch, on l'a vu je ne sais combien de fois à Toulouse, que ce soit au Festival Piano Jacobin ou avec l'Orchestre National du Capitole. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce pianiste ?
Ah ben je l'aime beaucoup, ce pianiste. Alors en plus, c'est marrant que vous disiez ça, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au piano Jacobin. Là, depuis que je fais le rendez-vous musical, et là, je ne peux plus assister à cette saison, mais bon. Et il avait joué les variations Goldberg, si je me souviens bien, oui, de Bach. Oui. Et par contre, bon, un petit bémol, je l'aime beaucoup, mais j'avais été un peu perdu par l'acoustique des Jacobins pour cette œuvre-là.
Oui.
Il y avait énormément de réverbération. Or, c'est un discours qui est très clair, qui est très riche, et toutes les variations n'étaient pas mises en valeur comme elles auraient dû, mais il n'y était pour rien, je pense. Voilà, c'est le problème parfois de l'acoustique au Jacobin.
Oui, et puis ça dépend beaucoup de l'endroit où on se trouve.
Et
oui,
voilà,
oui, dans la salle capitolaire, si on se trouve un peu à l'extérieur, c'est beaucoup plus clair.
Et alors, il faut être en face à l'extérieur, enfin, c'est très complexe.
C'est une des difficultés, effectivement, de la salle capitulaire du cloître des Jacobins. Et puis bon, Nicolas Angelisch, vous en parlez, Bach, Prokofiev, Brahms, moi je l'ai vu dans du Ravel, c'est un pianiste qui est à l'aise dans tous les répertoires,
oui,
ce n'est pas courant.
Non, ce n'est pas courant. Ouais. Même dans Mozart, moi je l'ai vu très bien aussi. Ouais. Bon.
Alors, petit extrait pour le plaisir d'entendre Nicolas Angelisch dans cette émission. Il joue ici le 2e Intermezzo opus 117 de Johannes Brahms. Le 2e Intermezzo opus 117 de Johannes Brahms, interprété par Nicolas Angelisch, qui était donc à l'affiche de Piano Jacobin mardi soir. Le lendemain, c'est un enfant de la région qui lui a succédé en la personne de David Frey. Vous étiez encore présent, Serge. Qu'a joué le pianiste Tarbet et comment avez-vous trouvé sa prestation ?
Alors, David Frey, c'est un personnage à part. Il a une espèce à la fois de fragilité et de force. Et là aussi, il a donné un programme qui était partagé entre Mozart et Schubert. Vous pouvez se dire, ah, c'est léger, c'est... Pas du tout. Il n'a choisi que des œuvres en mineur, en mode mineur, en commençant par la quatrième fantaisie en ut mineur, la 475, que chez le 475, qui est un drame en musique, hein, en piano. Et puis une sonate en do mineur également, même tonalité. Il y avait qu'un rondo au milieu qui apportait un peu de lumière, le troisième rondo en la mineur. Et ça finissait par la 16e sonate de Schubert, en la mineur encore. Donc c'était vraiment des tonalités très sombres. Et il est entré à fond là-dedans, parce qu'il s'implique complètement, avec son attitude au piano qui est très particulière, puisqu'il a une chaise avec dossier genre Glenn Gould. Oui. Il est très bas oui. sur le clavier. C'est très particulier. Il me fait penser, pas par son jeu, mais par son attitude, c'est tout à fait Glenn Gould.
Mais c'est vrai que, bon, si je devais faire un bémol par rapport au jeu, aux prestations de David Frey, c'est que je trouve qu'il est assez pénible à regarder jouer à cause de ça.
Oui, mais ce qui compte...
Je veux dire, c'est l'aspect visuel. Bah oui, mais quand on est en concert, on voit jouer le pianiste ouais. quand même. Et je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Un petit peu parti. Oui, oui. Voilà, mais bon, je ne doute pas qu'à côté de ça, il ait fait une très belle prestation.
Ah non, c'était tout à fait impressionnant la manière dont il a joué Mozart. Dieu merci, il n'y a pas qu'une manière de jouer Mozart, y compris ses pièces. Alors, c'est quand même la beauté de la musique vivante, hein. Rien n'est figé. Et là, il a choisi vraiment le drame, l'ombre des angoisses qui accompagne un peu la face cachée de Mozart. Et c'est ce qui est apparu dans cette fantaisie numéro 4 en ut mineur, avec... ces changements de tonalité fréquents, cette espèce d'agitation qui caractérisait l'écriture. Et donc, vraiment, il en a exposé toute la noirceur. C'est assez étonnant quand on parle de Mozart de parler de noirceur, mais là, c'était le cas. Cet éclairage assez radical, il faut le dire, hein, s'est poursuivi avec la sonate de la Köchel 457, qui est elle aussi dans la même tonalité, une mineure. Cette tonalité, une mineure, elle a une histoire quand même, hein. Pom, 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 pom.
Oui, oui, oui.
Bon, on sait, hein. Donc, là, c'est pareil. Et en plus, il les a enchaînés, donc ce qui allait très bien, qui convenait parfaitement, sans pause. Il a enchaîné la fantaisie avec le molto allegro initial de la sonate. Et donc, là aussi, alors, il a déchaîné des véritables bourrasques tragiques au cours de ce premier mouvement, surtout. Et on reprend un peu sa respiration pendant l'adagio. Alors, c'est paradoxal, l'adagio, lui, est en majeur. Mi bémol majeur, voilà, une espèce de négatif des successions traditionnelles de tonalités dans les sonates, y compris celle de Mozart d'ailleurs. Donc c'était vraiment très profond et très, très sombre. La seconde partie, un peu moins tendue, puisque le rondo numéro 3 en la mineur, c'est une espèce de sas où on respire un peu, mais c'est un sas qui nous a mené vers le tendre Schubert qui, dans sa sonate numéro 16, est aussi orienté vers la tragédie, hein, le caractère sombre et mélancolique. Ah là, il a fait vraiment preuve d'un jeu à la fois nuancé et subtil, mais il y avait quand même une espèce de violence retenue qu'il a très bien maîtrisée. Là aussi, c'est l'andante qui a éclairé un peu le paysage d'une certaine lumière un peu diaphane, et puis ensuite un scherzo dansant, et enfin le rondo final. Et là, c'est une course hallucinée, mais hallucinée qui ne cesse de s'accélérer vers un double accord final. Alors là, il a tapé ses accords de manière... mais stupéfiante, on ne s'attendait pas à ça dans du Mozart. Mais vraiment, c'était à couper le souffle, hein. C'était tout à fait impressionnant. Donc c'était un voyage, je le redis encore, très sombre. Et il a été très applaudi, il est revenu, et là il a joué aussi 3 bis, mais là il a voulu ramener une espèce de sérénité hors du temps en abordant Bach. Il a joué d'abord l'aria des variations Goldberg, avec une lumière, une beauté, une simplicité qui s'impose dans une telle œuvre. Puis il a joué également l'un des canons, toujours des variations Goldberg, et il a achevé par un choral, le BWV 659, Nun kommt der Heidenheiland, qui est un choral d'une beauté lumineuse, vient maintenant sauveur des païens, et c'était un peu comme un chant d'espoir dans la nuit. Donc vraiment un concert inhabituel, radical, sur le plan des interprétations, mais vraiment très, très attachant. Alors il faut signaler qu'il sera de nouveau à Toulouse, lors d'une happy hour, un samedi après-midi, le 1er février, et là il jouera des concertos de Bach et de Mozart avec les cordes de l'orchestre du Capitole.
Alors j'allais dire justement David Frey, voilà encore un pianiste qu'on entend souvent à Toulouse, oui. Et pour cause, parce qu'il est originaire de la région, donc né à Tarbes, ancien élève du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, puis ensuite il a rejoint Jacques Rouvier au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui était vraiment son maître, celui qui l'a formé, et encore aujourd'hui il y a une très forte relation entre eux. Et Vincent Joquin, On a parlé de Nicolas Sengelich, je suppose que vous avez également entendu David Franck en concert. Qu'est-ce que vous pensez de ce pianiste ?
Moi, je pourrais dire une chose. Pour être honnête, je le connais évidemment, mais je ne l'ai pas assez entendu en direct. C'est très délicat de se prononcer, surtout sur des pianistes jeunes qui ont encore beaucoup à construire. Mais évidemment, il est extrêmement talentueux. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est dans le programme, c'est ça qui me frappe surtout. Je ne peux pas parler du jeu, puisque déjà, je n'étais pas au concert. C'est qu'on voit que c'est construit. C'est plus construit que faisaient d'autres pianistes. Ouais. Qui jouait un peu, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire à raconter entre les œuvres. Et ça, ça me frappe et ça me parle particulièrement.
mais je trouve que...
C'est assez courant chez David Frey. Hein.
Oui, c'est pour ça que je le souligne.
Il est très pointilleux et minutieux là-dessus.
Mais c'est particulier à cette édition du festival.
Oui.
Tous les concerts auxquels j'ai assisté, il y a un programme avec une logique.
Mais c'est peut-être une tendance aussi, je pense.
Peut-être,
de construire les programmes.
On se souvient des grands virtuoses du XXe siècle qui donnaient une ribambelle de pièces virtuoses. Les concerts de Horowitz,
par exemple.
C'est ahurissant, quoi.
Qui n'ont souvent aucun rapport les unes avec les autres.
Ah oui, voilà. Simplement pour démontrer...
Ah, si c'est de faire un numéro, quoi.
Voilà,
je peux tout jouer, je peux tout très bien jouer.
Juste, je suis loin d'être un historien de la musique, mais je crois être presque sûr que la fantaisie en ut mineur, Mozart l'a écrite pour la jouer avant la sonate. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un numéro de Köchel...
Oui,
postérieur. D'ailleurs, c'est inversé, c'est rigolo, on croit que c'est une erreur. Souvent, c'est 457 et 475.
Oui.
Voilà.
Non, 475, oui,
c'est la fantaisie et 457, oui, c'est la sonate, parce que la fantaisie a été écrite après. D'ailleurs, elle commence avec les mêmes notes, mais qui sont deux fois plus lentes que la sonate d'après.
Voilà. Exactement.
Voilà.
Exactement. Voilà. Donc, c'est très intelligent comme idée.
Oui, tout à fait, de reprendre ça.
De les reprendre et de les enchaîner.
Ouais. Et même la fantaisie, c'est pré-beethovenien, presque, on pourrait dire. Il y a des changements très brusques, très inhabituels chez Mozart.
Ah, oui, oui. Merci pour ce petit cours de musicologie appliquée. Autour de David Frey, nous montrer son toucher de clavier dans cette émission après Nicolas Sengelich. Et ça va être dans du Schubert, l'Andante de l'impromptu D899, numéro 3. L'Andante de l'impromptu D899 numéro 3 de Franz Schubert, joué par David Frey. Et nous allons terminer cette première partie d'émission et ce retour sur les concerts de piano jacobin avec celui qu'a donné mercredi dernier, toujours au cloître des Jacobins, Elisabeth Leonskaya. La grande pianiste russe, c'est le moins qu'on puisse dire, est une habituée des lieux puisqu'elle est une invitée régulière de piano jacobin quasiment depuis les débuts du festival. Et mercredi, elle a joué un programme entièrement dédié à Beethoven, un compositeur avec lequel elle entretient une relation passionnée, pour ne pas dire passionnelle.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, signalons quand même qu'elle est en train d'enregistrer avec l'Orchestre du Capitole et Touane Sokiev l'intégrale des concertos. C'est elle qui a choisi. Je l'avais interviewée il y a 2 ans et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit ah, parce que j'adore cet orchestre et Touane Sokiev est mon chef favori. Donc,
tout est réuni.
Elle a des liens avec Toulouse qui sont évidents. Et là, une fois encore, elle a fait preuve d'une intensité incroyable. Elle avait quand même choisi de donner les 3 dernières sonates de Beethoven. Les 3 dernières, opus 109, 110, 111.
Qui sont des merveilles.
Qui
toutes,
sont non seulement des toutes. Merveilles, mais c'est... Alors, je me suis permis
parce qu'on parle souvent de la 111, la dernière, la 32,
oui,
la numérotée 32, mais alors la 110 et la 109 sont aussi
la
magnifiques.
111, la 110, avec sa fugue, c'est stupéfiant. Alors, c'est donc une habituée de la scène musicale toulousaine. Et donc là, elle a voulu consacrer tout son concert à ces 3 sonates qu'elle a jouées sans interruption. Il n'y a pas eu d'entracte. Et à la fin, Dieu merci, elle a refusé tout bis. Elle a dit, non, après ça, on ne peut pas jouer de
bis. Ça n'avait pas de sens.
Et elle avait raison. Elle a raison. Donc, ça a été un moment on était en apesanteur.
Suspendu dans le temps.
Ah oui, complètement, complètement. Il faut se rappeler quand même que quelqu'un d'aussi connaisseur de la musique de Beethoven que Thomas Mann avait qualifié la dernière sonate de « Adieu à la sonate ». Donc, c'était en quelque sorte pour
après
lui,
ça,
la fin après
voilà.
Ça. Bon, il y a eu Brahms qui a écrit quelques sonates, mais ce n'est pas ce qu'on retient le plus de Brahms d'ailleurs. Et donc, après lui, effectivement, c'était un peu une espèce de fin du monde. Et c'est dans ce sens-là qu'elle l'a joué. Alors, bon, elle a commencé donc par la 30e, la mi majeure.
Opus 109.
Et avec un naturel incroyable. Moi, l'impression que ça m'a donnée, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire entre l'œuvre et l'auditeur. Elle passe l'œuvre, mais elle n'essaie pas d'imposer des conceptions particulières. Elle a donné ça avec une intensité incroyable, avec des fortés qui étaient de tonitruants, hein. Des nuances évidemment, bien sûr, mais une chose tout à fait incroyable. Donc, la 30e, c'était d'abord une énergie dans le vivace qui était incroyable, et puis il y a eu la violence, et puis il y a eu ces incroyables variations qui concluent l'œuvre. Alors, c'est évidemment l'apothéose des variations dans ces 3 dernières sonates, surtout la première des 3 dernières et la dernière. Donc. Et là, magnifique, hein, tendresse, révolte, enfin, on en a eu absolument tout. La 31e, donc la bémol majeure, alors là, c'était une espèce d'inquiétude dès le début. Et donc, l'inquiétude des questions et la violence des réponses. On avait l'impression que c'était un dialogue qui était comme ceci, délivré par le clavier. Et puis donc, alors surtout, la fin, le dernier mouvement, cette fugue, moi ça me donne les larmes aux yeux chaque fois. C'était une espèce d'ascension vers la lumière. Et elle a tracé ça avec à la fois une rigueur, mais une intensité qui était tout à fait étonnante. Bon, là, elle a eu un vrai triomphe rien que pour cette sonate. Et puis enfin, l'opus 111, donc, alors là, une sonate qui explose vraiment la structure traditionnelle de la sonate. Il n'y a que 2 mouvements, mais 2 mouvements complètement déséquilibrés avec des inventions littérales. En particulier dans l'arietta, deuxième mouvement, le début du deuxième mouvement. L'arietta, bon, c'est aussi une pure merveille. Une espèce de sérénité qui apparaît là-dedans. Et lorsque commence la série des variations, c'est peut-être les variations les plus folles que Beethoven ait jamais écrites. Et moi, je suis chaque fois étonné par l'une de ces variations, alors je ne sais plus quel numéro, incroyablement syncopée et qui porte à croire que Beethoven a inventé le jazz. Tout simplement. J'avais des amis qui n'étaient pas du tout habitués à écouter de la musique de Beethoven et qui m'ont dit « mais on avait l'impression du jazz ». Eux aussi l'ont ressenti. Donc, c'est une force incroyable. Et puis donc... Le final, qui est incroyable. Alors, je voudrais quand même citer ce qu'écrivait à propos de ce final André Boukourechliev, qui était un grand compositeur, un grand musicologue. Il écrit ceci. « Un ultime rappel de la cellule vitale de l'arietta, une infime transformation chromatique de sa mélodie, celle l'adieu, et s'ouvre sur le silence des profondeurs. » On peut pas dire mieux, quoi. Alors, c'était une espèce d'évocation de fin du monde, peut-être la fin de monde et le début de notre. Tout était dit et tout s'est arrêté là.
Vincent Joquin, Elisabeth Lenskaya, vous l'avez forcément entendu, à piano jacobin ou même à la Lohengrin avec l'orchestre du Capitole.
Oui,
votre avis ?
Alors là, ce qui me laisse un peu sans voix, c'est qu'elle ait fait les 3 dans le même concert en les enchaînant. Quand on sait que c'est physique et que tous les pianistes le disent, quoi. Déjà en jouer une.
Oui, ce que j'allais dire.
C'est pas mal. Moi, c'est ça qui me.
Ah oui, donc c'était sidérant. Hein.
Ah, c'est sidérant. Oui.
Incroyable.
Sidérant. Moi, je suis sans voix là. Quand vous avez dit les 3, j'ai dit non, c'est... Et sans entracte.
Sans entracte.
Ah, entre chaque... Un sacré métier, quoi.
Entre chaque sonate, elle partait derrière le piano.
Ça, on en doute
elle
pas.
Partait s'isoler pendant, 20 secondes, oui. Derrière le piano, elle revenait et elle enchaînait.
Ah ouais, non.
Le temps de se reconditionner.
Pour et en plus, oui, voilà, quelle sonate, puisque c'est ça. Beethoven, on peut dire que toute sa vie, il a cherché à éclater les formes. Et là, là, dans la dernière sonate, c'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il y arrive, avec les derniers quatuors.
Oui, oui, aussi.
Parce que dans les symphonies, non, il a laissé vraiment quelque chose. Et le reste de sa musique aussi. Mais les sonates et les quatuors, oui, ils bouclent. C'est après, quoi, c'est autre chose.
Nous allons bien sûr écouter Elisabeth Léonskaya jouer du Beethoven. Il s'agit d'une des pièces qui était à son programme mercredi, la célèbre sonate numéro 32, opus 111. La fameuse et très belle sonate numéro 32, opus 111, interprétée par Elisabeth Léonskaya, qui nous permet de terminer en beauté cette page consacrée au festival Piano Jacobin, et par la même occasion la première partie de cette émission. Quelques secondes de pause avant de retrouver notre invité d'honneur, Vincent Joquin, et d'évoquer avec lui Rendez-vous musical et le programme de sa troisième édition à Saint-Pierre-des-Cuisines le 1er octobre. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda est la seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et en compagnie de notre invité d'honneur, le pianiste et compositeur Vincent Joquin, fondateur et directeur artistique de Rendez-vous Musical, ce concert annuel que vous organisez avec le soutien de l'association Édition W. La troisième édition a lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 1er octobre à 20h. Nous allons en dire plus à nos auditeurs dans quelques instants, mais je pense qu'ils seront heureux de faire d'abord mieux connaissance avec vous, Vincent Joquin, pianiste, compositeur, toulousain, passé par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.
Oui, pianiste, ça me gêne un peu, surtout après les trois pianistes dont on vient de parler. Bon, je vais rester très modeste et humble.
Le pianiste, c'est un état qui suppose différents niveaux.
Oui, voilà, voilà, on peut le dire gentiment comme ça.
Si vous voulez, que je ne heurte pas trop votre modestie.
Non, non, mais en plus, le but du rendez-vous musical n'est pas du tout de venir en concurrence de ce genre d'événement. Hein. On vise autre chose. Je me sens plus compositeur.
J'insiste un peu, je vais mieux faire connaissance avec vous. Vous êtes passé donc par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Je ne sais pas s'il s'appelait comme ça à l'époque, d'ailleurs, déjà.
Non, il s'appelait le...
Conservatoire national de région, peut-être.
J'ai oublié, maintenant.
Il y a eu tellement de dénominations.
Ça s'appelait le conservatoire tout court. Après, ça s'appelait le CNR, conservatoire national.
De région, c'est bien ce que je pensais. Quel professeur et quel maître avez-vous eu, que ce soit pour le piano ou pour la composition?
Alors, c'est un peu particulier mon parcours au conservatoire. D'abord, j'ai commencé très tard, et alors je pense que ça existe toujours. C'est un problème parfois, en fonction de son âge, on doit avoir un certain niveau. Donc quand vous êtes débutant à 15 ans, vous ne rentrez pas dans les cases. Donc j'ai fait mes premières leçons de piano avec un professeur du conservatoire, mais pas au conservatoire. En cours particulier, alors au départ c'est parti comme tout le monde, hein, une heure par-ci par-là, puis après bon ça c'est un petit peu... Et comme il n'y avait pas ce problème de l'âge, je suis rentré d'abord en musicologie à l'époque, puisqu'elle venait d'être créée depuis pas très longtemps à Toulouse en plus. Et là j'ai fait beaucoup d'histoire de la musique, moins de l'instrument et de l'écriture. Là, j'ai rencontré un professeur qui était aussi au conservatoire, qui s'appelle Paul Badens, que les gens du conservatoire connaissent, qui enseigne toujours d'ailleurs, il n'est pas loin de la retraite, je pense. avec qui ces cours, c'est les cours qui m'intéressaient le plus, les cours d'écriture. Et là, après la musicologie, ne voulant pas être professeur de musique, que ce soit en collège ou à l'université, je suis revenu en cycle supérieur au conservatoire. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle les matières d'érudition, orchestration, écriture, etc. Et donc, j'ai toujours joué du piano, mais voilà. C'est plus un outil pour moi, le piano, que vraiment quelque chose où je vais montrer tout mon savoir-faire.
C'est... Donc, très rapidement, vous avez été attiré par la composition,
oui.
Donc la création, d'une certaine
oui.
manière. Un pianiste
oui.
est un interprète avant tout. Un compositeur est un créateur.
Oui.
Quels sont les grands compositeurs qui vous inspirent et auxquels vous vous référez? Là encore, en toute modestie, rassurez-vous.
Oui. Alors, bon, évidemment, j'en aime énormément, des compositeurs. On est influencé... Alors, le premier compositeur qui m'a scotché, c'est Beethoven. J'écoutais que ça, quasiment. Entre 15 et 18, toutes les sonates évidemment.
C'est pas le pire des modèles qu'on
non,
peut se
non,
trouver.
Non, c'est pas le pire. Et j'avais d'ailleurs un petit duel avec mon père qui lui me disait « écoute Mozart ». C'était un peu le conflit générationnel.
Mais bon, peut-être que Beethoven vous aurait dit la même chose que votre père. écoute Mozart.
Peut-être, je n'en sais rien, mais c'est Beethoven me parlait quoi, essentiellement. Même si j'écoutais d'autres hein, évidemment. Et après c'est vrai que je suis venu petit à petit à Mozart par un interprète. Je pense, duquel personne ne viendra à Mozart avec lui, c'est par Glenn Gould.
Oui, effectivement, surtout que
voilà.
Lui aimait à dire que ce n'était pas son compositeur préféré.
Oui, mais je pense qu'il y avait de la provocation chez Gould.
Oui, parce qu'il a quand même enregistré effectivement
l'intégrale,
ce qui
est rare.
Oui, mais il considérait que les dernières œuvres de Mozart n'étaient pas intéressantes
oui,
du tout.
Sais,
c'était les premières qui étaient intéressantes.
On a toujours
pour
pu
lui.
Se demander s'il n'y avait pas un peu de coquetterie là-dedans.
Je pense qu'il y a de la coquetterie parce que c'est un des rares compositeurs duquel il a enregistré l'intégrale des sonates.
Et oui.
Voilà.
Et oui.
Donc, je pense qu'il y avait une dualité aussi, et de la provocation, je pense. Bref, et moi, voilà, j'ai écouté de la première note à la dernière note l'intégrale des sonates pour piano, qui n'est pas non plus les œuvres par lesquelles on vient chez Mozart. C'est souvent le concerto et l'opéra. Moi, c'est vraiment par ça. Et là, oui, ça a changé tout dans ma tête. Tout s'est dit, voilà, en fait, c'est ça. Et Bach, évidemment. Bon, on peut pas
oui,
faire la
voilà.
Musique,
bon,
ça,
bon, voilà. Ça va. Mozart,
notre
Beethoven,
père
Bach.
Voilà.
Mozart, Beethoven, Bach, tout va bien. Tout va bien, tous vos papiers sont en règle.
Voilà, c'est ça.
Alors, si je vous pose une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, à quoi ressemble la musique de Vincent Joquin? Parce que dans la musique française de la seconde moitié du XXe siècle, on sait que Boulez et ses suiveurs ont un peu écrasé à un moment donné. La concurrence, c'est pas le mot, mais en tout cas, les autres compositeurs de cette génération, bon, les choses se sont un peu inversées, en tout cas, atténuées depuis le tournant des années 2000. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous inscrivez, si tant est que vous vous inscriviez dans un courant, dans quel mouvement?
Déjà, ce que je pourrais dire par rapport à la musique française, parce qu'évidemment, on me dit que je fais de musique très française quand je vais ailleurs qu'en France. En France, on me le dit pas trop, mais quand je vais à l'étranger, pour les gens, c'est évident que c'est de la musique française. C'est curieux.
Mais alors, quelle musique française?
Voilà,
parce qu'il n'y en a pas qu'une.
Si on devait chercher un modèle, c'est vrai que, bon, Fauré, Debussy, Ravel.
Oui.
Et surtout dans leur approche à la fois de renouvellement du langage et de cette recherche, on va dire, de raffinement, de légèreté, de néoclassicisme qu'on a et chez Debussy et chez Ravel et chez Fauré aussi. Des couleurs particulières qu'on peut souvent assimiler à la peinture. Voilà, je dirais ça. Et quand même, chez moi, quelque chose d'assez, je dis la chose, germanique, dans mes modèles d'écriture, que sont vraiment Bach et Mozart et Schubert, et qui est vraiment ce qu'on peut appeler quand même la musique allemande, même si je sais bien que Mozart n'est pas allemand, mais bon, enfin, vous voyez, il y a...
Germanique, on va dire la musique germanique.
Moi, j'appelle quand même ça la musique allemande. On voit ce qu'on veut dire quand
on dit
ça.
Oui, tout à fait.
Donc, je dirais qu'il y a ce mélange et ce regard vers le passé qui est assumé maintenant. Je m'en défendais un peu à 20 ans parce que... Mais bon, en même temps, on est toujours un peu... Moi, j'assume. En plus, je trouve qu'elle est et classique, ma musique, et aussi moderne, parce que je suis né en 76, donc elle ne peut pas ne pas être moderne.
Bah, vous absorbez forcément les ondes de votre temps, de votre époque.
Quand on a entendu du jazz, du rock, on ne peut que l'assimiler, c'est impossible de ne pas l'assimiler.
Voilà. Eh bien, nos auditeurs vont tout de suite pouvoir se faire une idée avec une pièce de votre composition que je propose d'écouter maintenant. Elle a pour titre « Farfalle ». Thank you. Farfalle, pièce composée par notre invité Vincent Joquin. Si j'ai diffusé précisément celle-ci, ce n'est pas par hasard puisqu'elle est au programme de la 3e édition de Rendez-vous musical mardi prochain. En revanche, elle le sera dans une version que vous avez réarrangée pour d'autres instruments que ceux que nous venons d'entendre.
Oui, absolument. Et c'était même pas l'idée de départ, puisque vous savez, hein, on en parlera peut-être, que j'arrange toutes les œuvres, je les réarrange pour le concert. Mais celle-là, je m'étais dit, oh ben, en voilà une que j'ai pas à réarranger, c'est toujours ça de prix. Et puis David m'a dit, oh, tu sais, la... David Minetti, donc le clarinettiste, m'a dit, oh, la clarinette basse, tu veux pas faire pour corde bassée ? Oh, j'ai dit, écoute, comme j'aime bien me présenter des instruments au public, allez, allons-y. Donc j'ai un peu réécrit, parce qu'il y a un peu moins de grave aux cordes bassées, donc j'ai un peu réécrit pour... Pour le concert.
Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, le corde basset fait partie de la famille des clarinettes. Oui. C'est pas évident lorsqu'on entend le nom corde basset, c'est pas les cordes, c'est de la clarinette.
On appelle corps parce que c'est un instrument en fa. Tous les instruments en fa sont appelés corps.
Voilà, nous allons parler plus en détail du programme de cette 3e édition de Rendez-vous musical dans quelques minutes parce que je voudrais d'abord préciser avec vous le concept très particulier de ce concert. En quoi est-il différent de ce qu'on entend en général dans les autres salles ?
Alors, il est différent, pas pour être différent, je tiens à dire ça parce que ça pourrait être une tentation. Il est différent parce qu'il est parti d'une constatation personnelle. Souvent, on en parlait tout à l'heure de la programmation, les programmes qui allient des pièces, parfois on se demande un peu le lien entre les pièces, qui n'aident pas à garder le fil du concert. Et souvent, moi qui étant un grand amateur de musique, pour m'être ennuyé à des concerts, à piquer du nez à 21h, à faire un effort pour à me dire « c'est pas normal, j'adore la musique et je m'endors alors que j'aime la pièce ». Et je me dis peut-être c'est dû à la longueur, à la monotonie que peut engendrer le même instrument pendant une demi-heure, pendant trois quarts d'heure. Et je m'étais dit « si un jour je peux faire un concert, je penserai à cette problématique ». Et donc on joue sur deux problématiques, la durée des pièces. Alors il y a des pièces longues au rendez-vous musical, mais la plus longue doit faire un quart d'heure à peu près. C'est à peu près ça qui se passe chaque année. Et je crois la plus courte cette année doit faire 2 minutes et demie, 3 minutes. Donc il y a à peu près une vingtaine de pièces comme chaque année. Et on change aussi l'instrumentation à chaque pièce. Tout n'est pas joué à les mêmes musiciens du début à la fin. Et puis c'est aussi une manière d'éclairer chaque instrument, chaque musicien qui est bien content d'être mis en lumière aussi et pas toujours au fond de l'orchestre.
Donc des musiques de films, peut y avoir du jazz, évidemment il y a des pièces du répertoire, du grand répertoire, oui. Et puis des pièces de votre composition ou de compositeurs contemporains.
Absolument, le but c'est de chaque année de faire la promotion entre guillemets de ma musique et celle d'autres compositeurs vivants pour montrer aussi que la musique s'écrit aujourd'hui par des gens vivants et qui ont envie, comme tout artisan, de partager leur travail.
Bien entendu.
Voilà.
Puis vous aurez donc noté ceux qui nous écoutent, qui parfois n'osent pas dire qu'ils s'ennuient à des concerts de musique classique. Eh bien, ça peut arriver même à un musicien de métier, un compositeur comme Vincent Joquin. Alors, il y a eu deux éditions de Rendez-vous musical, à chaque fois avec un plateau de musiciens très fourni, plus ou moins 20 à chaque fois. De quels horizons viennent-ils ces musiciens ? Est-ce que ce sont des musiciens locaux ? Est-ce que ce sont des musiciens très chevronnés ? Est-ce qu'il y en a des plus jeunes ?
Alors oui, on ne se ferme aucune porte. L'essentiel, c'est que le musicien ait envie de participer déjà à ce projet, qu'il ait envie de partager avec les autres, de rencontrer des musiciens. Par exemple, sur le duo Farfalle et qu'on vient d'entendre, la flûtiste et David ne se connaissaient pas avant le concert. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on monte les répétitions, on apprend à se connaître, on reprend le goût de faire de la musique. Donc ça, c'est important. Bon, après, il y a quand même un niveau d'exigence. Hein. Moi, j'avoue, je suis exigeant, donc c'est pas prétentieux de dire ça, mais le concert, il n'est pas simple à faire. Il y a 20 pièces très différentes. Il faut des musiciens qui connaissent leur métier. Mais après, oui, on n'est absolument pas fermé. La première année, il y avait un musicien croate que j'avais fait venir. Il y avait même Thibaut Garcia la première année, qui n'était pas encore au niveau où il est, mais il était déjà excellentissime. Là, cette année, c'est vrai qu'on est un peu plus local, puisqu'on a des musiciens de l'Orchestre du Capitole, des musiciens de l'Orchestre de Chambre, des musiciens de l'Orchestre Occitania. On est un peu plus dans la région, mais enfin, il y a des
surtout des cordes cette année.
Oui, voilà. Donc, on a eu pas mal de vent l'an dernier, puisqu'il y avait un quintet de cuivre et du Capitole et un quatuor de saxophone. Donc là, cette année, on est un peu plus sur un ensemble à cordes qui vient s'étoffer de temps en temps de vent et de cuivre. Voilà.
Il y a même un pianiste cette année, je ne le connais pas. Il y a un nom. comment il s'appelle le pianiste ?
Oui, c'est moi qui vais me coller à la partie de piano cette année.
Bon. Alors, comment vous procédez pour bâtir votre programme, sachant, comme vous l'avez dit, que c'est vous qui faites les arrangements en fonction des instruments dont vous disposez pour le concert ?
Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant de parler de ça, parce qu'on reprend l'étymologie du mot « composition ». C'est que le programme, comme je composerai une œuvre, j'essaie de le composer exactement comme un compositeur va faire ses quatre mouvements de symphonie, où il va y avoir forcément des éléments qui reviennent et qui se répondent les uns aux autres. Et moi, je le compose vraiment, le programme. Je pense à ça, et l'instrumentation aussi. Bon, ce qui nous pose des fois des petits soucis de changement de plateau, mais voilà.
Ça fait partie du jeu.
Je vais même jusqu'à l'enchaînement des tonalités aussi. Voilà, c'est très important pour moi.
Absolument.
J'ai pas envie qu'il y ait des tonalités qui aillent
pas. D'un seul coup, ça dissonne complètement. Ouais.
Donc, c'est un travail, pour ne rien vous cacher, que je commence l'année dernière, que j'ai commencé presque une semaine après la fin de la deuxième édition. Quoi.
Dès le mois d'octobre 2018, vous avez commencé à travailler.
Il faut que ça mûrisse, parce que des fois, je reviens en arrière.
Parce qu'en plus, il faut faire les arrangements. Quoi,
et voilà, il faut tout écrire après. Voilà.
Donc, et vous ne savez peut-être pas tout de suite quels sont les instruments, les musiciens
dont
vous allez disposer.
Exactement, donc c'est très long.
Et bon, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle du programme avant le soir fatidique. Vous préférez qu'il y ait une surprise, en tout cas une certaine dose de surprise pour le public. Est-ce qu'on peut quand même donner quelques indices sur les œuvres que vous avez retenues pour cette troisième édition?
Alors, on peut dire les compositeurs, ça ne me gêne pas. Alors déjà, il y aura, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais pour l'instant, on commence toujours avec 2-3 musiques de film parce que le public connaît ça. Et moi, je pense qu'il faut des deux dans un concert, il faut aller dans le sens du public pour l'amener là où il ne serait pas allé. Voilà. Donc moi, je lui donne d'abord des choses qu'il connaît, qu'on connaît tous, qu'on a dans l'oreille, qu'on aime plus ou moins, mais ça parle en général, et ça aide bien à commencer le concert, surtout pour les gens qui ne se disent pas « Oula, où j'arrive ?» Voilà, on vient dans des terres connues. Alors des fois, il y a des petites surprises dans les arrangements, mais voilà, c'est des terres connues. Donc là, ce sera cette année John Williams et Alan Silvestri, qui était l'an dernier, mais avec d'autres œuvres. Après, nous partirons vers l'opéra avec de la musique issue d'un opéra d'un certain Bizet. Hein, je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans les compositeurs français, mais il m'a énormément influencé, Bizet aussi. Après Bizet, qu'est-ce qu'on aura? On aura une création d'une œuvre de Stéphane Delplace, un compositeur vivant.
On va y revenir à Stéphane Delplace.
Voilà, une marche funèbre. Ça sera très clair avant, donc justement, ça contrastera pour cordes et flûte. Après, nous aurons du Debussy, on reste dans la musique française, je ne vous dis pas quoi, mais alors là aussi, c'est une œuvre qui est pas du tout pour orchestre à la base, qui est pour piano, assez connu même, on peut dire très connu. Et là, personnellement, j'espère que les gens se diront « mais c'est évident qu'il aurait dû l'écrire pour orchestre ». Je vous assure, hein, je pense vraiment qu'on a trouvé quelque chose là. Et après, il y aura une pièce d'un compositeur pas très connu, hélas en France, qui s'appelle Jacques Ibert, qu'on joue pas beaucoup, mais qui a c'est une pièce qui est vraiment inspirée de la musique traditionnelle espagnole ou de ces couleurs-là. Je pense qu'il va beaucoup plaire au public, assez virtuose. Après, nous terminerons la première partie avec deux pièces que j'ai écrites. Une pièce qui, à la base, était pour chœur et que là, j'ai réarrangée pour un violon, un alto, un violoncelle, ce qui est très rare en concert, un trio de cordes comme ça. Et après, le quintet pour quatuor et clarinette créé par David Minetti.
Alors, avant que vous n'évoquiez la seconde partie du concert, nous allons faire une nouvelle pause musicale et en profiter pour écouter justement une œuvre de Jacques Ibert, qui, comme vous l'avez rappelé, n'est pas forcément le plus connu des compositeurs français du siècle dernier. Voici Entr'acte, pièce qu'il a composée pour flûte et guitare. Entracte pour flûte et guitare, pièce de Jacques Ibert. Jacques Ibert qui est donc au programme de la première partie de Rendez-vous musical le 1er octobre. Vincent Joquin, maintenant vous allez nous parler de la seconde partie de ce concert. Quelles autres pièces, quels autres compositeurs? Les pièces, vous n'allez pas nous le dire, mais au moins, quels sont les compositeurs qu'on va y trouver?
Voilà, alors dans la deuxième partie, nous débuterons avec une pièce assez connue, je ne dis pas quoi, de Elgar, compositeur britannique.
On peut avoir une intuition.
Peut-être vous allez vous tromper, mais bon, on verra.
Oui, parce que c'est vrai, il y en a plusieurs.
Compositeur britannique que j'aime beaucoup, en plus qu'il y a une musique, souvent les Britanniques ont une image assez froide, et moi je trouve que sa musique est tout sauf froide, très très romantique, mais au bon sens du terme, enfin, j'aime beaucoup cette musique, elle me parle beaucoup. Après, nous aurons une pièce que j'ai écrite, pour ensemble à cordes, seul. Après, nous aurons un mouvement d'un concerto de Mozart, pour piano. Après, nous aurons un extrait d'une cantate de Bach. Voilà, là on revient sur mes deux compositeurs... fétiche, hein, on va dire, mes maîtres. Et alors après, là, le concert, par l'intermédiaire d'une courte pièce de Mozart, qui à la base pour piano, ça fait partie des œuvres tardives, tellement curieuses dans l'écriture de Mozart qu'on a longtemps cru que c'était même pas du Mozart. Il y a un album d'ailleurs que je vous recommande de Christian Zacharias où il joue toutes ces pièces tardives de... Je crois que ça s'appelle... J'ai le trou là, ça me vient pas, mais on pourra vérifier.
Il faudra rechercher.
Oui, sur internet. Et par l'intermédiaire de cette pièce que j'ai réarrangée pour cordes basses et flûte, qui est une espèce de petite gigue fuguée assez incroyable, très courte. Après, il y aura le farfalle qu'on a entendu tout à l'heure. Bon, ça, je peux le dire maintenant. Hein.
Ah, là, maintenant, là...
Voilà, ça a été dévoilé.
La mèche a été vendue.
Et après ça, nous basculerons, justement, par cette pièce que j'ai écrite, qu'on a écoutée tout à l'heure, dans quelque chose d'un peu plus... où la musique classique joue avec les rythmes du jazz et de... En passant par un arrangement que j'ai fait d'une pièce très célèbre, qui est devenu un standard de jazz de Richard Rodgers. D'ailleurs, souvent, les gens ne savent pas que c'est de Richard Rodgers parce qu'ils pensent que c'est de John Coltrane, parce que c'est lui
oui,
qui a
lui qui l'a rendu célèbre dans une version
voilà.
Effectivement
mythique
aujourd'hui.
Je ne dis pas le titre, mais là, tout le monde aura trouvé.
Oui. Et puis bon, c'est tiré aussi, d'ailleurs,
d'une comédie musicale,
de film,
oui,
hein, voilà. Une comédie musicale. Avec Julie Andrews.
Bon, là, voilà. On a tout voilà. Dit, là. Là.
Bon, après, les gens chercheront.
Un petit coup de Google,
ah,
et c'est
si
bon.
Je ne sais pas si les gens... Oui, c'est pas si sûr.
Après, nous aurons une pièce qui est issue des suites jazz de Shostakovich.
Bah, voilà. Oui. Voilà, on reste dans le jazz.
Voilà, on reste dans le jazz.
Dans le jazz.
Oui, mais un jazz réinterprété.
Oui,
là.
Un jazz.
Mais voilà, moi, j'aime bien ces ponts entre la musique classique et le jazz, qui peut y avoir aussi parfois chez Ravel ou chez Gershwin. Bon, enfin, voilà. Et après, nous aurons une pièce pour terminer. Alors, j'aime pas trop finir sur moi, mais là, il se trouve que pour la cohérence du programme, c'est ce qui allait, c'est une marche que j'ai écrite, qui est aussi un clin d'œil à Ravel, à Bizet, à tout un tas de compositeurs français que j'aime beaucoup.
Mais ça ne sera pas forcément tout à fait la fin du programme, cette marche de Vincent Joquin.
Ça dépendra du public. Si le public en veut, il y aura un petit clin d'œil à Toulouse encore cette année.
Ah, voilà. Un clin d'œil à Toulouse. Alors voilà. Là, on peut imaginer beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, mais un petit clin d'œil.
Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, avant d'en terminer avec le programme de ce concert, il faut qu'on parle de cette pièce que vous avez citée tout à l'heure, Marche funèbre, pièce de Stéphane Delplace, qui se trouve être le compositeur invité de cette troisième édition. C'est une première, l'invitation d'un compositeur contemporain à Rendez-vous musical.
Alors, c'est pas une première, parce que l'an dernier, j'avais déjà voulu inclure une pièce contemporaine dans le programme, ce qui est pas toujours facile, puisque je veux être cohérent et que je ne sais pas quelle pièce va me donner le compositeur, parce que vous savez que comme on est vivant, il y a des droits d'auteur, des éditeurs qui veulent pas, enfin bon, c'est compliqué. Et comme je veux que ce soit cohérent, il faut que la cohérence ne soit pas en danger, mais on avait trouvé une pièce, et c'était là plus par remerciement, si j'ose dire, parce que ce compositeur m'a fait jouer en Australie, à Sydney.
C'est un compositeur australien.
Voilà, au conservatoire, c'est le compositeur vivant australien le plus joué, donc voilà, je voulais absolument le remercier. C'était pour saxophone et piano, une belle petite pièce, que le public avait beaucoup appréciée d'ailleurs. Et là, du coup, on s'est dit, c'est parti de là, on s'est dit, il faut absolument le faire chaque année, inviter au moins un ou deux autres compositeurs pour montrer que, voilà, c'est vivant et qu'on est unis. On est unis, les compositeurs, qu'il n'y a pas de...
On s'entraide.
Voilà, on s'entraide.
On se serre les coudes.
Et je l'ai rencontré, Stéphane Delplace, hélas, si j'ose dire, tout à fait fortuitement, parce que je cherchais ça, mais j'aurais dû...
Vous ne connaissiez pas du tout sa musique?
Pas du tout, j'aurais dû en entendre parler dans les conservatoires, par exemple, ça c'est fort dommage. Et je suis tombé amoureux de sa musique et surtout de... On n'a pas la même esthétique forcément, mais je comprends ce qu'il veut faire et moi je m'inscris totalement dans ce qu'il fait. Il veut continuer à utiliser la musique tonale tout en la renouvelant et en cherchant d'autres portes parce qu'il pense, et là je pense à juste titre comme moi, qu'il y a énormément de choses inexplorées dans la musique tonale encore et qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Est-ce qu'il sera présent au concert le 1er octobre ?
Il va tout faire pour être présent, mais habitant à Paris et enseignant à Paris dans deux conservatoires, c'est un problème d'emploi du temps plus que de désir d'être là.
Alors il y a une autre particularité, c'est que cette pièce, c'est la seule que vous n'avez pas arrangée pour ce concert.
Non, voilà.
Et pour cause, parce que c'est une version composée par Stéphane Delplace, bien sûr, mais qui n'a jamais été donnée en concert,
non,
jamais créée.
Non,
donc ça,
voilà,
c'est une sorte de création mondiale de cette version.
Si j'ai bien compris, cette version-là, telle qu'elle, n'a jamais été donnée en concert.
Alors, elle est jouée par quels instruments ?
Alors normalement, elle est pour cordes, et là, il a rajouté dans l'œuvre une flûte. Alors moi, ça m'a arrangé parce qu'il me manquait une œuvre pour cordes et flûtes, pour équilibrer, puisqu'on avait cordes et clarinettes, on avait cordes. Et donc, ça tombait à pic, si j'ose dire. Et oui, voilà, c'est la seule pièce que je n'ai pas arrangée. J'en suis content d'ailleurs, parce que réarranger un compositeur vivant, ça m'aurait vraiment embêté.
Comme je suis certain que beaucoup de nos auditeurs se demandent ce que peut être la musique de Stéphane Delplace, on va écouter une de ses œuvres, et tant qu'à faire, autant que ce soit celle qui sera jouée le 1er octobre, voici « Marche funèbre » de Stéphane Delplace. La très belle marche funèbre de Stéphane Delplace dans sa version pour cordes, alors que celle que l'on entendra le 1er octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines sera jouée dans une version inédite pour cordes et flûtes. Ce sera une des découvertes de cette troisième édition de Rendez-vous musical. Il nous reste quelques instants, Serge Chosy, peut-être un mot sur le prochain festival Toulouse des Orgues qui a lieu cette année du 1er au 13 octobre. Et cette 24e édition est consacrée à une thématique assez inattendue, mais bien dans l'air du temps.
Oui, en effet, puisqu'il s'agit de rendre hommage aux femmes qui ont composé pour l'orgue et femmes organistes. Il y en a des très célèbres, hein, Marie-Claire Alain par exemple. Bon. Mais il y en a qu'on a un peu passé sous silence et qu'on a oublié. Et donc cette édition doit rendre hommage aux dames.
Voilà, donc les femmes et l'orgue, et nous recevrons Yves Rechsteiner la semaine prochaine, le directeur artistique de Toulouse les Orgues, pour en parler plus en détail. Nous devons conclure ce numéro de Mélomanie. Tous mes remerciements à Serge Chosy de l'avoir co-animé avec moi, et à Vincent Joquin d'en avoir été l'invité d'honneur, et de nous avoir présenté Rendez-vous musical, le programme de la troisième édition qui a donc lieu à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines mardi prochain, 1er octobre à 20h. 17 musiciens pour un concert vont être interprétés des musiques de films, des pièces du répertoire, des pièces contemporaines et d'autres composées par Vincent Joquin lui-même. C'est une soirée que je conseille à tous les publics, aux mélomanes comme aux novices de la musique classique. Vous pouvez réserver vos places sur le site www.rendezvousmusical.fr. Par ailleurs, le festival Piano Jacobin se termine ce lundi 30 septembre et il y a encore quelques concerts d'ici là. Renseignements et réservations sur le site www.pianojacobin.com. Les représentations de Norma viennent de commencer au Théâtre du Capitole. Il y en a encore 6 le 29 septembre, ainsi que les 2, 5, 6, 8 et 10 octobre. Pour faire vos réservations, il faut vous connecter au site www.theatreducapitole.fr. Concernant la programmation et les concerts du festival Toulouse des Orgues, qui se déroule donc du 1er au 13 octobre, Le site à consulter pour vous informer et réserver vos places a pour adresse www.toulouse-les-org.org. Et je rappelle enfin que le premier concert de la saison Toulouse Guitare est donné vendredi 4 octobre à 20h par Rolf Lislevand à la Chapelle des Carmélites. Renseignements et réservations sur le site www.toulouseguitare.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de rester fidèles à cette émission et très bonne semaine musicale à tous.